les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la main et du bras, ou du bras et de la main. Est-ce la même chose dans la Torah ?
Ça dépend.
Pas tout à fait.
Savez, le bras et la main, ce n'est pas exactement la même chose. Mais en fait, les deux expressions existent à propos de la façon de Dieu de s'impliquer dans le monde. On a « Ki beyad razaka avec une main puissante, éternelle, ta sortie d'Égypte ». Et il y a aussi « J'étendrai mon bras sur l'Égypte ». L'idée, c'est l'implication de Dieu dans le monde avec une idée que je trouve extraordinaire derrière, c'est que chaque fois qu'un homme agit, chaque fois qu'un homme agit dans le monde, il est d'une certaine manière, pour le bien, il est d'une certaine manière le bras de Dieu. Et on le voit dans un psaume que j'aime beaucoup, qui est probablement mon psaume préféré, je crois que c'est le psaume 121. « L'Éternel est comme l'ombre de ma main droite. » C'est comme ça. « Hachem tzilecha aliyah d'emincha » pour les hébraïsants qui écoutent l'émission. « L'Éternel est comme l'ombre de ma main droite. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon maître disait toujours, c'est pas compliqué. Si je prends ma main, là, ma main droite, et qu'il y a de l'ombre, si j'ouvre ma main, alors l'ombre de ma main est ouverte. Mais si je ferme ma main, l'ombre de ma main est fermée. Autrement dit, si j'ouvre ma main pour les autres, alors la main de Dieu s'ouvre pour moi. Mais si je ferme ma main pour les autres, puisque Dieu est comme l'ombre de ma main droite, alors si je ferme ma main aux autres, la main de Dieu se ferme pour moi. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il faut oser le dire, l'homme peut presque commander la main de Dieu, puisque nous sommes finalement qu'une forme de télécommande, puisque si on agit en bien envers les autres, quelque chose de bien nous revient, maintenant ou après, peu importe. C'est ça, la justice divine, c'est qu'elle n'est pas immédiate. Elle laisse à l'homme le temps de s'amender ou elle n'est pas ultra réactive. Elle est quand Dieu estime que c'est le moment. Mais en tout cas, cette idée de l'implication de Dieu dans le monde fait que c'est mis dans une sorte d'anthropomorphisme comme c'était la main de Dieu. Et alors, on le voit notamment dans l'Égypte, la sortie d'Égypte, où des rabbins très futés font le décompte suivant. Il est marqué « Le doigt de Dieu a frappé l'Égypte sur une plaie ». Donc si le doigt de Dieu frappe l'Égypte, il y avait 10 plaies. Quand il y a la main, c'est 5 fois 10, 50 plaies. Et certains font un décompte jusqu'à 250 plaies sur l'Égypte. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a un très beau verset qui dit « Tout le mal qui s'est abattu sur l'Égypte, jamais ne vous frappera. » Donc plus on augmente ce que l'Égypte a supporté, moins
on tous sera ceux frappé.
Qui... Ouais, voilà, moins on sera frappé. C'est aussi une manière de dire que la main de Dieu qui est inépuisable pour le bien est épuisable pour le mal. Comme si on disait Dieu avait presque scrupule à frapper le monde. Et on le voit bien d'ailleurs avec le passage de la mer Rouge à la fin de cette sortie d'Égypte, où les Hébreux s'engouffrent dans la mer qui s'ouvre et ils passent à pied sec. Les Égyptiens s'engouffrent aussi, la mer se referme. Et là, les anges chantent des louanges à Dieu parce que le peuple est sauvé. Et ils voient que Dieu ne chante pas. Les anges disent à Dieu, mais mon Dieu, c'est ta main qui a frappé. Pourquoi tu ne chantes pas? Ta main a frappé. Et il répond cette phrase extraordinaire d'après le Talmud. Mes enfants meurent, noyés, et vous voulez que je chante? Ces enfants, c'était les Égyptiens, parce que les Égyptiens ne sont pas moins enfants de Dieu que les Hébreux. Et donc, c'est une façon de dire, parfois, Dieu est obligé de faire des choses pour rétablir la justice, en tout cas pour permettre à ceux qui le méritent d'être sauvés, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être joyeux. C'est une grande leçon pour nous, je crois. J'ai mémoire d'un cardinal pour lequel j'avais une admiration sans borne, le cardinal de Courtrai, qui était primat des Gaules, donc qui était à Lyon, qui avait dit au moment de la première guerre du Golfe, parfois je préfère la guerre au déshonneur. C'est-à-dire que parfois, on doit faire des choix, mais ces choix, on ne les fait pas de gaieté de cœur, on les fait parce que nous sommes humains et donc placés devant une alternative entre le grave et le pire. Et donc je crois
pour,
que c'est important.
Pour un mieux ou pour un meilleur, on est amené à prendre des décisions.
Et ça, c'est la main de Dieu. On a toujours l'impression que la main de Dieu s'abat. Vous voyez, donc il y a un côté de violence. Mais la main de Dieu entre en jeu quand les hommes ne sont pas capables eux-mêmes de faire régner le bien. Donc d'une certaine manière, moins elle s'abat sur nous, mieux on se porte. Pas parce qu'elle ne nous apporte pas du bien, mais parce que l'idéal étant que les enfants s'entendent, toutes proportions gardées. Si mes enfants arrivent à s'arranger entre eux, à se partager leurs jouets, leurs bonbons, leurs gâteaux, tout va bien, je ne m'en mêle pas. Quand je m'en mêle, en général...
C'est que ça va mal.
Voilà,
oui.
C'est que ça crie à la maison.
En tout cas, c'est une grave responsabilité pour l'humain de se dire qu'il peut être une sorte de prolongement de la main de Dieu. C'est très anthropomorphique, évidemment, mais... Du coup, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous pouvons penser, est-ce que ce Dieu approuverait ou n'approuverait pas? Enfin, on peut raisonner comme cela.
C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, comme le dit les Maximes des Pères, qui est un très beau texte de réflexion sur morale, disons éthique, fais de sa volonté ta volonté, c'est-à-dire fais de la volonté de Dieu ta volonté, afin qu'il fasse de ta volonté sa volonté. C'est-à-dire que si on est vraiment dans la projection de ce que Dieu attend, alors il y a une sorte de rencontre entre l'attente de Dieu et l'espérance des hommes. Est-ce que j'ose reprendre l'image de la main tendue ? C'est comme s'il y avait une main tendue de Dieu vers nous, et Dieu attend quoi ? Que nous, on lui tende la main de notre côté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, je trouve, de la main, c'est-à-dire, c'est une projection de la personne vers les autres. Et Dieu est dans cette permanence projection vers nous. Il attend uniquement qu'on lui tende la main, qu'on saisisse cette occasion de nous rapprocher de lui, c'est-à-dire de nous rapprocher de sa volonté. On ne peut pas se rapprocher physiquement de Dieu, on peut se rapprocher de sa volonté. De ce point de vue, je pense qu'on avait parlé lorsque nous avions parlé des anges, de ce point de vue, on peut potentiellement être des anges, c'est-à-dire étymologiquement, angelos, c'est-à-dire des envoyés de Dieu. Parce que quand un homme accomplit la volonté de Dieu, il incarne donc sa volonté, et donc il est un ange au sens de envoyé de Dieu. Voilà comment on pourrait parler de la main. Ceci dit, il y a encore tant et tant à dire sur la main, notamment un passage du prophète Daniel, qui est magnifique, où il y a une main qui apparaît. Et qui,
dans une vision ?
Non, qui apparaît non. sur un mur.
Et sur qui un dit, mur.
Et qui annonce la destruction de la Babylonie. Et on voit beaucoup de mains qui apparaissent. Notamment, il y a un très beau passage du Midrash qui raconte une histoire, si vous permettez de conclure sur cette histoire, qui m'a toujours fasciné. Le Talmud raconte l'histoire de ce rabbin qui était vraiment dans une misère noire. Et sa femme lui dit « Le monde entier ne subsiste que grâce à ta prière, et nous, nous n'avons rien à manger, je suis obligé, pour ne pas avoir honte, de mettre de la paille à brûler dans le four de la maison pour que les voisins voient de la fumée et croient que je fais cuire des choses. C'est insupportable. J'arrive pas à comprendre que tu pries pour le monde entier qui subsiste grâce à tes prières et que nous, nous n'avons rien. » Il dit « Ok, pas d'histoire à la maison comme tout le monde, on a un rabbin, on n'a pas d'histoire. » Il prie et une main sort du ciel et lui tend un pied de table en or massif incrusté de pierres précieuses. Il le prend, tout content, il le ramène à la maison, sa femme est heureuse et voilà, la vie est belle, demain, elle m'en vendra au marché. Et la nuit, il rêve que dans la maison d'études céleste, tous les rabbins étudient sur une table à trois pieds en or massif et lui sur une table à deux pieds qui est un peu bancale. Il se réveille en sursaut et dit « ça, je peux pas. Je ne peux pas galvauder, perdre ma vie future pour un besoin de ce temps-là immédiat. » Il prie et une main sort du ciel de nouveau et reprend ce pied. Et j'ai toujours trouvé que le geste de reprendre était beaucoup plus fort que le geste de donner. Parce que le geste de donner, on trouve toujours des moments où quelqu'un, brusquement, nous envoie un chèque, on a besoin, quelque chose arrive, on se dit « la main de Dieu m'a aidé ». Mais que la main de Dieu soit capable de reprendre ce qu'elle a donné parce qu'on en a fait le choix et qu'on a pris l'engagement de ne pas sacrifier l'essentiel au fugace, ça, je trouve que c'est vraiment l'implication de Dieu dans le monde, qui est capable d'agir sur le temps. Voilà. Ce texte est, je trouve, assez important et fort sur l'implication de Dieu dans le monde par intermédiaire d'une main, c'est-à-dire de quelque chose qui est tendu vers les hommes.
Merci à Haïm Korsia de ses explications qui nous seront certainement très fructueuses et à bientôt pour un autre mot des religions.
À bientôt.